Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On a pu la voir comme une sirène enroulée dans des filets de pêche. Cette jeune femme, cette actrice, elle jouait dans La Garçonne, version de 1936. Cette patronne de boîte de nuit a marqué l'époque de l'avant-guerre, a été portraiturée par les peintres les plus célèbres. Elle fut avant tout chanteuse. Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. C'était le 15 août 1978 sur France Culture. La mémoire de Suzy par Nadine Nimier. Réalisation Marie-France Nussbaum avec les témoignages d'Arletty, André Frégnaud, Jean Clergue, Alfred Mam, Micheline Lasserre et bien sûr Suzy Solidor elle-même.
Je suis partie du principe que quand on habite près de la mer, il faut la voir. Ou alors les gens qui ne la regardent pas, ce sont des fous. Donc j'ai penché la glace pour la première chose que je vois le matin en me réveillant, c'est la mer. Et au-dessus de moi, si, à ma droite c'est la mer, et au-dessus de moi c'est le merveilleux portrait du pourquoi pas avec le commandant Charcot. C'est primordial pour moi. Je suis née à Saint-Malo, j'ai vécu à Saint-Malo jusqu'à 15 ans. Et je n'ai jamais oublié, j'y vais tous les ans, tellement j'aime. C'est mon fief, c'est mon pays. Un pied à l'île de Ré, un pied à Saint-Malo. Et de ma chambre, ici, la merveilleuse vue jusqu'en Italie, tout ce beau côté de la côte qui n'est pas trop abîmée. C'est Cagnes-sur-Mer, qui est un si beau fief aussi.
Oui, c'est vraiment la Malouine, c'est vraiment la fille de Saint-Malo.
Arletty.
Qui en plus a ce nom de merveilleux de Solidor. Presque ça suffisait, Solidor, sans Suzy. C'était encore plus énigmatique, je trouve.
C'est une vieille tour où je suis née, enfin, pas dans la tour, mais à côté, et qui s'appelle la tour Solidor. Alors, il y a les trois versions. Il y a la version qui existe en disant Soleil d'or, ça c'est la version gaélique. L'autre version qui s'appelle Soleil d'or aussi, enfin un nom comme ça. Et puis la troisième version, c'est un vieux seigneur au XVIIIe siècle qui avait épousé, il était très âgé, il avait épousé une petite fille de 18 ans qui se languissait. Alors, elle était malheureuse et elle avait une petite lanterne, et de l'autre côté, il avait un petit flirt. Alors, elle, avec sa petite lanterne, elle se baladait. Et elle lui disait, viens, je suis seule, il dort. Alors, c'est la version que j'adore. Et un petit garçon qui a dit à sa mère, en traversant avec le bateau, j'étais sur le bateau, il dit, maman, c'est la dame qui chante à la radio qui a donné son nom à la tour. Je dis, non mon chéri, elle est du Moyen-Âge, ça va comme ça pour moi, merci beaucoup, sans façon.
Comme un aimant tes yeux d'émeraude attirent mon être vers le tien. Ton clair regard où le désir rôde me poursuit sans cesse et me retient. Dans leur doux l'assaut tes bras m'enchaînent. Tu veux à ta chair river mon corps, mais d'un effort quand ton rêve m'entraîne. Mon cœur nomade fuit le port. N'espère pas m'attacher au rivage, ma barque folle suit le flot. Je poursuis l'éternel mirage qui fait rêver les matelots. À travers marées et rafales, d'un pôle à l'autre sans frayeur, je vais où nul n'a fait escale. Je cherche l'île du bonheur.
Moi, j'étais absolument enragée, je voulais partir tout le temps en mer. Et j'avais des ennuis avec maman qui me disait, reviens, tu auras des biscuits. En fait, biscuits, j'avais une tarte, j'étais folle furieuse. Je lui faisais des ennuis parce que je partais tout le temps à la godille. Vous savez ce que c'est, la godille? Alors je partais à la godille et j'avais des gros ennuis quand je revenais. Bon, 5-6 ans, je partais à la godille. Il y avait une chose que je vous ferai voir qui est chez moi, dans ma chambre. Je vous ferai penser à vous faire voir. On me voit presque à la godille sur un petit bateau en couleur très joli.
À travers marée des rafales, d'un pôle à l'autre sans frayeur, je vais où nul n'a fait escale, je cherche l'île du bonheur.
J'avais une voix du tonnerre, je chantais comme les garçons, et le monsieur le curé était fou furieux parce qu'il disait, quand les filles et les gars chantent, il y a toujours un garçon qui chante avec les filles. Et morte de honte, c'était moi. Et j'avais honte d'avoir une voix comme ça. Je crois que c'était un péché mortel, mon... chanter une grosse voix.
La voix était là, qu'est-ce que vous voulez, la voix, c'est tout. Hein? Elle aurait pu avoir le même corps, et qu'est-ce qu'elle aurait fait, ça ne suffisait pas. Elle aurait pu chanter comme je ne veux pas nommer des femmes qui chantent actuellement. Alors, vous comprenez, des petits phénomènes... Vous la voyez, tandis que c'était la grande cave. Elle n'avait pas besoin, elle n'a pas besoin de micro, ni de crier, ni rien. Elle n'a pas besoin de forcer le temps. C'est unique, sa voix, cette femme-là. C'est merveilleux d'avoir une voix comme ça, sensationnelle. Elle pouvait tout dire, cette femme-là.
C'est un jeune poète qui a été tué pendant la guerre, hélas, car il avait beaucoup de choses à dire. Il avait beaucoup de talent.
Jean-Marie Huard.
Et je vais vous le dire. Il y avait une fois... Il y avait une fois une rose et un marin. Le marin était à Formose, la rose était à Dublin. Jamais ils ne se connurent, ils étaient beaucoup trop loin. Lui quittait pas son navire, elle quittait pas son jardin. Au-dessus de la rose, sage, les oiseaux passaient tout le temps. Au-dessus du marin volage, les soleils et les printemps. Le marin périt en septembre et la rose, le même jour, vint s'effeuiller dans la chambre d'une fille en mal d'amour. Personne, je pense, ne suppose qu'il y ait quelque lien entre le marin de Formose et la rose de Dublin. Et seul, un doigt sur la bouche, un ange beau comme un éclair jette, quand le soleil se couche, des pétales sur la mer. Je suis partie assez tôt, je suis partie à 14 ans d'école. Et... m'a mise à apprendre à faire des biscuits pour les Terre-Neuve. Et c'était très mauvais pour les poumons, parce qu'il y avait de
poussière.
Oui, c'était très mauvais, enfin, je ne sais pas. J'étais obligée d'arrêter. Et alors, elle a dit, ma fille est enragée, je ne peux rien en faire. Et c'est là où j'ai émigré. À ce moment-là, j'allais avoir 15 ans. Et j'étais la plus jeune femme en France à conduire une voiture. Et je suis partie militaire. C'est là où je suis partie à l'armée. Et alors, la journée, je conduisais le général. Et la nuit, je conduisais les ambulances. Et c'était très dur parce que ça faisait une peine de voir tous ces garçons de 18, 20 ans avec des jambes en moins, des bras en moins. Ça, c'était une drôle d'aventure. Je vais vous dire un petit poème de Peggy. Ça s'appelle « Dieu et les Français ». Il est très court, il est très beau. « Tels sont nos Français, dit Dieu. Ils ne sont pas sans défauts, ils ont même beaucoup de défauts, ils ont plus de défauts que les autres. Nos Français sont comme tout le monde, peu de saints et beaucoup de pécheurs. Un saint, 30 pécheurs et plus. Or ces Français, tels qu'ils sont, ce sont mes meilleurs serviteurs. Enfin, je les aime, c'est tout dire. » Oh, mon peuple français, dit Dieu, seul peuple qui regarde en face, et la fortune, et l'épreuve, et le péché même, et qui moi-même me regarde en face, oh peuple, le seul qui pleure et qui prie sans contorsion, le seul qui ne verse que des larmes décentes. Les peuples de la terre te disent léger, léger, parce que tu es un peuple prompt. Mais moi je t'ai pesé, dit Dieu, et je ne t'ai pas trouvé léger. Au peuple inventeur de la croisade, je ne t'ai pas trouvé léger en foire. Au peuple inventeur de la cathédrale, je ne t'ai pas trouvé léger en charité. Quant à l'espérance, il vaut mieux ne pas en parler. Il y en a pour eux. C'est embêtant, dit Dieu, quand il n'y aura plus ces Français. Il y a des choses que je fais. Et il n'y aura plus personne pour les comprendre. Parce que c'est beau. Quelle qualité. À 18 ans, quand je suis sortie de la guerre, j'ai été démobilisée. Je suis allée chez une antiquaire, amenée par des amis. Et elle m'a dit, il y a une grande couturière qui cherche des mannequins très, très, très minces. Or, à ce moment-là, je pesais 40, je crois. Alors, elle m'a présenté. Non seulement je ne suis pas allée chez elle, mais je suis restée chez l'antiquaire. Puis j'ai connu Paris. C'était merveilleux. J'aimais les choses anciennes, mais j'ai appris à les aimer. J'ai appris à me promener, à voir les choses. Parce que j'étais une petite bretonne inculte qui arrivait à Paris hirsute. Il fallait reprendre tout ça en main et faire avec cette mauvaise graine quelque chose de bien. Enfin, d'assez bien. J'en suis là.
Il s'aimait à la folie, la voleuse et le filou. Elle était chaude et jolie. Il était fort comme un loup.
C'est une chanson de Henry Hyde, musique de Silvio Lazzari. C'est une très grande chanson, c'est un monument. Vraiment une très très belle chanson.
Il narguait sergents et joules. Quelle noce, quel festin. C'était l'empereur des drôles et la reine des catins. Un jour on arrête à l'homme, le peuple l'injuriait. Elle croquait une pomme et riait. Il écrivit à sa belle, viens, ils m'ont emprisonné. Du fond du cœur t'appelle, je t'aime comme un damné. La lecture une fois faite, elle jeta le billet. Elle allait faire la fête et riait. Un matin dès l'aube pâle, on éveilla le bandit. Et quoique ce fût un beau mal, oh, et courons le pendit. Le soir même, dans un bouge, son amoureuse braillait. Elle buvait du vin rouge et
Les années folles d'après-guerre.
Alfred Mamm, éditeur.
C'est une époque révolutionnaire qui marque une rupture avec les concepts sociaux, les conventions sociales des années précédentes, des siècles précédents. Et cette société, d'après la guerre 14, préfigure l'époque actuelle et de par ses conceptions de libération des mœurs essentiellement. Et les voyants qui de cette société ont pressenti l'époque même que nous vivons. L'après-guerre, c'est essentiellement le refus de toute convention esthétique, artistique ou littéraire. C'est le rejet de toutes les conventions précédentes et la recherche de la spontanéité brute qui fait scandale avec son corollaire qui est le retour aux sources, un souci, une soif de retour aux sources. C'est tout un monde qui veut être à la mode, qui lance des modes nouvelles et qui saisit Suzy comme un de ses symboles, un des personnages qui vont symboliser l'après-guerre.
Il y avait une espèce de joie de vivre, quelque chose de tellement extraordinaire qu'on se disait « ça ne peut pas durer ». Eh bien, ça n'a pas duré, évidemment. Je parle de 1920, moi. De 20 à 30, ça a été extraordinaire, Deauville. Les Maranées se promenant le matin sur les planches avec des énormes diamants. Les Maharajas suivant le train. Des gens extravagants, extraordinaires. Maurice de Rothschild se faisant essuyer le dos par son maître d'hôtel. Maintenant, c'est plus pensable. Tout ça sur la plage, se passait sur la plage. Et moi, complètement démente, avec des costumes de bain en bigoudi, en je ne sais pas quoi, en rose rouge, en filet de pêche. Des choses qu'on ne penserait même plus maintenant à des choses comme ça. C'était de la démence, mais c'était drôle. C'était pas méchant, c'était plein d'humour, c'était tordant. On a bien fait de s'amuser. On savait que ça ne durerait pas. Et il y avait des gens qui disaient, alors, ce matin, est-ce qu'on va voir Solidor sortant du bain, ou est-ce qu'on va voir Notre-Dame de Lisieux? Oh, ben on va voir Solidor, disaient certains. C'était comme ça, c'était à ce point-là, vous comprenez, c'était complètement fou. Mais c'était passionnant. Parce que j'ai pu m'amuser à Sdeauville. Oh.
D'abord, ça a été une image, et puis après, ça a été une voix.
Alors, André Frégnaud,
la mode de l'après-guerre et tout ce qui était à la mode fascinait les adolescents. Alors il y avait aussi des journaux illustrés, moins qu'aujourd'hui, mais il y en avait quand même. Et les journaux illustrés, tout sur lesquels nous nous précipitions, étaient très hantés sur Deauville, par exemple, parce que c'était la grande époque de Deauville. Alors nous, on regardait ces photos où il y avait Harry Pilser, où il y avait Gaby Delis, tous ces gens qui étaient sur les planches de Deauville. À ce moment-là, il y avait la plus jeune, il y avait une espèce de sirène, c'était vraiment une vraie sirène, très blonde, très belle, et qui était enroulée dans des filets de pêche. Ce qui fait qu'elle avait l'air d'une sirène qui aurait été pêchée par des pêcheurs mondains.
On la recherchait, elle n'avait plus à rechercher personne. Elle a été tout de suite célèbre, cette femme-là. Tout de suite dans la vie de Paris. Dans une vie de ce quartier de Paris. Ah oui, elle était tout de suite connue.
Cocteau était un personnage merveilleux. On était invité avec Jean Marais et lui et des amis dans le Var. Et puis... Il y avait une petite plage privée, on descendait comme ça, à pic, et on était nus comme des vers. Moi, nue, très brune, pas une marque de maillot, rien du tout. On descendait la petite plage, et je m'étais blessée avec un oursin. Alors je marchais avec une canne, et comme il faisait une chaleur, comme aujourd'hui... J'avais aussi un canotier. Et je descends en boitant légèrement avec mon canotier, et nu comme un ver. Et Cocteau se retourne vers Jean Marais et lui dit « Tu vois Solidor quand elle est nue ? » Eh bien, c'est un gentleman. Merveilleux. Il y a Cocteau qui pouvait dire des choses comme ça, et que ça soit charmant et pas gênant. Oh, c'est tout un merveilleux. J'étais la première à dire des poèmes de lui. Je disais « Attendre », je disais tous ces poèmes en scène. On a découvert Cocteau, poète, à ce moment-là, poète dans le vrai sens du mot et dans le grand sens du public.
Évidemment, on connaissait avant-guerre et à Paris des cabarets tenus par des chansonniers qui disaient leurs chansons. Nous avons le cas illustre du Chat Noir, on avait tout juste avant la guerre de 14-18 le cabaret Fischler où on allait beaucoup, mais C'était des cabarets, donc, pour des chansonniers. La grande nouveauté sociale, disons, donc, mondaine, la grande nouveauté mondaine de l'époque, ça va être la création de la boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est l'endroit central de la vie, de l'existence nocturne, où l'on se rend après avoir dîné et où l'on va danser avec ses amis en petit comité et où éventuellement, et je dis bien éventuellement, car ce n'est pas dans toutes les boîtes de nuit que passent des artistes de cabaret, mais ce sera le cas de Suzy Solidor. La boîte de nuit la plus célèbre à l'époque, c'est celle lancée par Jean Cocteau, le magicien de l'époque, qui crée et lance la boîte de nuit rue de Ponthieu, qui s'appelle « Le bœuf sur le toit ». Ce qui est frappant dans cette société parisienne d'alors, c'est une société cosmopolite. C'est une société cosmopolite, c'est l'époque où Paris se retrouve leader de la civilisation occidentale et où accourent des peintres de tous les pays. Ces peintres ont l'impression à Paris et sous le ciel de Paris de découvrir leur propre forme dans la lumière de Paris qui est particulièrement juste. Ils apprécient ce climat et la liberté avec laquelle on les laisse s'exprimer et parmi alors les symboles auxquels ils s'attachent, symboles de l'époque qu'ils affectionnent, il y a Suzy Solidor. Son personnage trouve de nouvelles résonances et il marque de cette façon, de manière plus intemporelle et jusque nos jours, il marque cette personnalité.
Elle a marqué son époque, disons de 25 à 40 et même elle a été après aussi. Puis alors, elle a eu cette idée, je pense qu'il venait d'elle, elle a été, on dit portraiturée. Eh ben, par des télépeintres célèbres. Alors l'idée, c'était dans ce petit cadre de son cabaret d'avoir ses portraits par Vandongen, par Kiesling, enfin on pourrait les nommer tous, elle a eu son portrait. Et l'idée amusante, c'était d'avoir ça dans son cabaret. Donc ça, oui, elle fait partie de l'époque de Paris. C'est Paris, en tous les cas. C'est pas la France, mais c'est Paris. Ah oui, bien sûr.
La marquise de Pompadour avait deux petits chiens qu'elle adorait. On a retrouvé les colliers de ces petits chiens et gravé sur les colliers des quatrains. Le premier petit chien parlait et voilà ce qu'il disait. Je ne promets pas de largesse à celui qui me trouvera. Qu'il me rapporte à ma maîtresse pour récompense, il la verra. Et le second petit chien disait, fidèle à ma maîtresse et toujours sur ses pas, sensible aux soins qu'elle me donne, prête à mordre tous ceux qui ne l'aimeraient pas, je n'ai pu mordre encore personne. C'est tout le XVIIIe siècle, ça, c'est évident. En entendant ça, on sait qu'on est français et qu'il y a eu un XVIIIe siècle. C'est très vrai. Chaque soir, Madame Yvette Guilbert me prenait dans sa loge et me donnait des conseils. Et j'en ai appris avec elle. C'était une grande diseuse, une très grande artiste. Et un jour, je suis entrée au Pleyel. Il pleuvait un après-midi. Et je me dis, tiens, il y a des gens bizarres au Pleyel, je vais rentrer. Et puis, je suis arrivée et elle était en train de donner un cours. On était une vingtaine. Et tout d'un coup, elle dit, alors, quelle est celle des petites, là, qui peut... Enfin, des petites, moi, j'avais 20 ans. Elle dit, quelle est celle des petites qui peut me dire, de trois façons différentes, il pleuvait ce jour-là. Et moi, complètement inconsciente, je lève mon bras, je m'avance, et je dis, moi, madame. Et bien, elle me dit, viens, ma fille, viens. Je monte, elle me dit, alors, dis-moi, de trois façons différentes, il pleuvait ce jour-là. J'ai dit, mais c'est pas du tout pareil. Alors, l'idée de cette scène et tout ça, et d'elle derrière moi. Et il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait ce jour-là. Oh, 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 il pleuvait ce jour-là. Enfin, j'ai dit 3 ou 4 façons. Elle m'a dit, toi, tu feras du théâtre, tu finiras dans la peau de... Peut-être pas d'une comédienne, mais sûrement d'une artiste, d'une chanteuse. Tu feras quelque chose dans le métier. Et c'est vrai. Le cabaret me faisait moins peur. D'abord, j'étais chez moi. Je n'aimais pas demander quelque chose. Alors, j'étais chez moi et ça se passait comme ça. Je chantais, je disais. Et ça a commencé dans mon magasin d'antiquité, qui est Voltaire, qui s'appelait simplement La Grande Mademoiselle. Toujours mon côté simple. Et là, j'ai commencé avec tous les copains qui venaient, Cocteau, Carco, tout le monde. Ils venaient prendre un pot. Je leur ai dit, écoutez, venez boire un verre, puis on dira des poèmes. Il y avait Kessel, il y avait... Et puis un jour, j'ai dit, mais mes enfants, je peux plus, j'ai plus de sous-sous. Alors vous viendrez, vous continuerez à venir, mais vous les paierez. Et j'ai ouvert rue Sainte-Anne. Et c'est là où le premier cabaret a commencé. J'avais ouvert pour 15 jours et j'ai gardé 13 ans. En 33, j'avais mon cabaret à moi. J'étais pas bien quand j'étais chez les autres. Ça m'énervait. Je pouvais pas faire ce que je voulais. Je pouvais pas engager qui je voulais, tout ça. Non, j'aimais mieux de chez moi.
Une belle croisière avec Jean-Pierre le matelot. J'étais petite et de la terre entière ne connaissait que Saint-Malo. Il m'a dit, roulant les épaules et jetant son béret sur le port, ma belle, veux-tu voir les deux pôles, les Amériques, le Labrador?
La belle croisière, c'est ma première chanson au fond. C'est une très charmante chanson et gaie.
Il était fort. J'ai poussé sa barque à la mer. J'ai poussé sa barque à la mer. Sa barque sans voile et sans mât, toute seule avec lui sur la mer. Toute seule avec lui sur la mer, avec lui qui m'a pris dans ses bras. Quand j'ai conté mon aventure, les gars du port ont ri de moi. Mais Jean-Pierre m'a dit, je t'assure, qu'ils en ont vu bien moins que toi. À 2 heures de barque légère, à 200 yards de Saint-Malo, j'ai fait ma plus belle croisière avec Jean-Pierre le matelot. Son sort c'est beau, sa mine est fière, ses yeux sont doux, ses bras sont chauds. Marque à la mer vers des pays qu'on oublie pas.
C'est embêtant de chanter. Alors je disais 2 ou 3 chansons deux ou trois poèmes. Et ça, ça a apporté dans mon tour de chant une chose qui n'existait pas avant. Et les gens adoraient parce que ça leur apportait quelque chose de plus.
Je le disais, entre mes chansons, un tas de petits poèmes qui n'avaient aucun rapport avec ce qu'on venait de dire, pour ne pas embêter le public, justement, qui adorait les chansons de Marin, mais à trop longue durée, c'est embêtant. Alors, brusquement, on mettait une chose comme ça.
Si l'on gardait, de Vildrac, si l'on gardait depuis des temps, si l'on gardait souple aux yeux odorants tous les cheveux des femmes qui sont mortes, tous les cheveux blonds, tous les cheveux blancs, crinière de nuit, toison de safran, et les cheveux couleur de feuilles mortes, si on les gardait depuis très longtemps, noués bout à bout pour tisser les voiles qui vont sur la mer. Il y en aurait tant et tant sur la mer. Il y aurait tant de soyeuses voiles luisant au soleil, bombant sous le vent, que les oiseaux gris qui vont sur la mer, que ces grands oiseaux sentiraient souvent se poser sur eux, les baisers partis de tous ces cheveux, les baisers posés dans tous ces cheveux, et puis en aller parmi le grand vent. Si l'on gardait, depuis des temps, si l'on gardait souples et odorants tous les cheveux des femmes qui sont mortes, tous les cheveux blonds, tous les cheveux blancs, crinière de nuit, toison de safran, et les cheveux couleur de feuilles mortes, si on les gardait depuis très longtemps, noués bout à bout pour tresser des cordes, afin d'attacher à de gros anneaux tous les prisonniers, et qu'on leur permît de se promener au bout de leurs cordes, les liens de cheveux seraient longs, si longs, qu'en les déroulant du seuil des prisons, tous les prisonniers pourraient s'en aller jusqu'à leur maison. Oh, les femmes étaient folles, elles pleuraient. Ça leur rappelait leur mari, c'était tellement en situation, n'est-ce pas? Et alors, les gens simples, des gens comme à ce moment-là, à Bobino et à l'Européen, ils disaient, hé, la grande, une autre fable. Ils appelaient ça une fable. Une fable. Et ils étaient très sensibles, ils écoutaient, ils assimilaient tout, ils adoraient ça, ils adoraient les poèmes. J'étais une des premières à dire du Cocteau. Je disais des choses très belles, de qualité. Et ils étaient fous de joie, ils étaient heureux d'entendre ça.
Il y a un mot de Cocteau qui est admirable, il disait qu'elle avait la voix à aller. Et bien, c'était tout à fait ça. C'est un peu comme si un corsaire s'était réincarné. En vérité, c'est un peu ça. Mais elle avait la tendresse des corsaires. Enfin, il y avait une tendresse profonde chez elle, je crois, et qu'elle avait toujours eu très grande humanité sous cette écorce virile. Tout d'un coup, elle est venue sur Solidor et elle s'est mise à chanter les chansons qui sont devenues célèbres très vite, dont une en particulier, dont tout le monde se souvient et qui était, je me souviens des paroles, « Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte », qui est devenu son tube.
Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Le flot qui roule à l'horizon me fait penser à un garçon qui ne croyait ni Dieu ni diable. Je l'ai rencontré vers le nord un soir d'escale sur un port dans un bastringue abominable. L'air sentait la sueur et l'alcool. Il ne portait pas de faux col mais un douteux foulard de soie. En entrant je n'ai vu que lui. Et mon cœur en fut ébloui de joie. Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Il me prit la main sans un mot et m'entraîna hors du bistrot, tout simplement d'un geste tendre. Ce n'était pas incompliqué, il demeurait le long du quai. Je n'ai pas cherché à comprendre. Sa chambre donnait sur le port. Des marins sous chantaient dehors, un bec de gaz d'un halo blême éclairait le triste réduit. Il m'écrasait tout contre lui. Je t'aime.
ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Son baiser me brûle toujours, est-ce là ce qu'on dit l'amour? Son bateau mouillé dans la rade, chassant les rêves de la nuit, au jour naissant il s'est enfui pour rejoindre les camarades. Je l'ai vu monter sur le pont, et si je ne sais pas son nom, je connais celui du navire. Un navire qui s'est perdu. Quant au marin, nul n'en peut plus rien dire. Le ciel est bas, la mer est grise. Ferme la fenêtre à la brise.
On ne sait pas, faut jamais chercher à comprendre ça. Pourquoi on prend un bide avec une chanson, pourquoi une autre chanson colle admirablement, on ne sait pas. C'est dans l'air. Mais Jean Marais, qui était le frère de Francis Carco et qui m'a apporté cette chanson, m'a dit, c'est pour toi, c'est collé à ta peau, c'est pour toi. Et je l'ai écouté. Et c'est Marguerite Monnot qui avait fait la musique, très belle musique. Et voilà, la chanson est partie, elle a pris ses ailes et elle est partie. Bon, moi j'ai eu des tracts, ben, quand j'étais au Casino de Paris, j'ai eu tellement le trac que je maigrissais le 1500 grammes par jour. C'était bien. Il fallait justement que je perde un ou deux kilos. J'étais enchanté. Mais les tracs, oh oui, 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 c'était épouvantable. C'est une maladie, hein. Tout se passe à l'intérieur, la petite mécanique.
Un poème de Jean Cocteau, Attendre. Mon chéri, tu sais être tendre. Mais pourquoi me jouer des tours? Surtout pourquoi faut-il t'attendre, t'attendre, t'attendre toujours? Tu sais m'aimer comme personne, mais attendre, attendre qu'on sonne le corps, le cœur, l'âme à l'envers, le pencher sur les nuits d'été, les nuits d'hiver. Attendre, attendre. Es-tu ivre? T'es-tu endormi sur un livre? Es-tu en train de t'amuser, de nouer mon cœur, de l'user? Où vis-tu? Es-tu chez une autre que tu dois faire attendre aussi? Écoute, il y a des limites. Bien que le cœur soit courageux, on pourrait tuer à ce jeu. Ah, je t'en conjure, viens vite. Pitié, j'ai mal, je souffre trop. Je n'en peux plus de ces attentes. De ces attentes sans détente, de cette... Pardon, je m'en tais. Je me tais, vois, je suis content. Laisse ta main dans mes cheveux. J'attendrai, j'attendrai. Autant que tu le veux.
J'ai toujours dit comme ça. Je trouve que la 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 la, c'est très embêtant. Et quand j'allais à la Comédie Française, je couchais les oreilles parce que ça m'amusait pas du tout d'entendre comme ça. Et je disais, mais il faut dire les poèmes comme on parle, en y mettant beaucoup de soi-même, mais sans la grandiloquence, sans tout ça.
Et puis alors, ce côté androgyne, vous comprenez, il y en a une comme ça.
Arletty.
Ou alors c'est des travelots, c'est pas drôle, et puis ils n'ont pas de voix jolie. Elle avait la voix synchrone avec ce corps de garçon. Oui, c'est ça, c'est une synchronisation, elle, c'était ça qui était merveilleux. Peut-être un des souvenirs de juste avant la guerre, c'est de l'avoir dansé dans son cabaret avec Mermoz, dans les bras de Mermoz. C'est un des plus jolis couples que j'ai vu dansant. Très joli. C'était ravissant, elle avait son dos nu, hein, ce dos célèbre. La couleur extraordinaire.
Ça a été une grande chose, parce que ça ne pouvait pas être mièvre avec Mermoz. Cette espèce de grand gaillard qui arrivait dans votre vie comme un avion. C'était un merveilleux garçon. Et très poète, et très pudique, et très, très mystérieux, très fin, très... pas du tout comme sa carrure. C'était très curieux. Il adorait les poèmes. Ouais. Il adorait ça. Oh, il était très, très beau. Et puis, si tant, c'était comme un enfant. Quand on voyait cet immense garçon à côté de vous et qui vous parlait comme... qui vous demandait protection, vous, pauvre petite fourmi. C'était très étrange. Mais quand il parlait de ses vols, de ses... Ah, ça, c'était merveilleux.
Je viens de relire un de ses livres qui s'appelle « Mes vols » par Mermoz. C'est fou. Ce qu'il a fait, ce qu'il a... Comment il est passé à travers tout. Et il avait toujours dit « Solidor, je suis tombé deux fois. Si jamais je tombe une troisième fois, inutile de me chercher. On ne me retrouvera jamais. » Et bien, on ne l'a jamais retrouvé. Rien, rien, rien. Et c'est, il est tombé dans le poteau noir. C'est là où il avait peur. Du reste, il me disait « C'est un endroit épouvantable. » Tout de suite après Dakar, un endroit monstrueux. Il est tombé là. Eh oui. J'ai eu beaucoup de peine. Elle était venue sur les marches tièdes et s'était assise. Sa tête gentille était inclinée un peu de côté. Ses mains réunies étaient endormies au creux de sa jupe et elle croisait ses jambes devant elle, l'un des pieds menus pointant vers le ciel. Il dut le frôler, ce pied, pour passer. Et il dut la voir. Et il vit la ligne de son épaule qui donnait envie de l'envelopper dans un tendre châle. Mais le désir lui vint de regarder ses yeux. Et ce fut le départ de tout. Mais le besoin lui vint de regarder sa bouche. Et ce fut la cause de tout. C'est beau, hein? C'est une merveille. Charles Vildrac, le grand poète.
La maison est à vendre, la maison est à prendre, ils veulent vendre la maison. Il y a même du grito pour dire ces mots, à vendre. Maman, ne vend pas notre vieille maison, là je peux pas te donner raison. Elle est si jolie, avec ses volets verts, sa fraîcheur l'été et sa douceur l'hiver. Il y a des souvenirs au fond de chaque tiroir, des parfums dans les placards. Les trains qui vont la nuit nous chantent des chansons. Maman ne vend pas la maison.
Dirigeait merveilleusement sa boîte. Elle a fait chanter beaucoup de gens là-dedans. Oh, oui, bien sûr. Et c'était du reste très généreux d'avoir des jeunes personnes qu'elle laissait très libres dans son cabaret.
Il fallait leur donner leur chance, vous comprenez? Il y avait des petites qui ne savaient pas, qui étaient un peu perdues, qui faisaient chien à abandonner sans collier. Alors je les recueillais, je disais, ma petite fille, il faut faire ceci, il faut faire cela. D'abord, il faut aller se laver. Il faut être toujours net devant le public. Il faut avoir sa bonne petite tête. Et puis, je suis là, je vous regardais. Tous les soirs, je regardais les petites qui chantaient. Tous les soirs, ça leur donnait beaucoup de pep.
Les petites et aussi les petits, parce que...
Oui, mais les petits aussi. Oui.
Et ce petit s'appelait Trainé.
Il y a eu Trainé, oui, j'ai eu Trainé. J'ai gardé 6 mois. Et puis, j'ai eu une bronchite, je suis partie en Suisse, à Cran-sur-Cière, justement. Et puis là, il a profité pour partir, lui. Il se sentait plus protégé par la patronne, il est parti. Mais il chantait déjà à ce moment-là, « Maman ne vend pas la maison », sur les bords du Yangtze-Kiang. C'était formidable, parce qu'il était moderne. Comprenez, ce garçon, des chansons comme ça, à cette époque. C'était terriblement moderne. Il débutait, mais il a toujours été charmant, charmant, charmant. Il a apporté dans la chanson des choses extraordinaires, mais ça, tout ça a été dit déjà, et c'est vrai, et c'est en dessous de la vérité. Car ce qu'il a apporté, c'était tellement merveilleux et frais. Ça ressemblait à rien d'autre. C'est ça qui était joli.
Les petites et les petits qui ont débuté chez Suzy, c'était aussi Colette Mars, Jean Rigaud, Mona Goya, Germaine Sablon, Eddy Constantine, Suzy Delair, René Passeur, Lénie Scudero, Odette Laure, et j'en passe.
Le temps passe très vite et les années nous quittent. Un jour, on est un grand garçon. Mais toi, malgré tes quelques cheveux gris, tu es jolie. Thank you. des souvenirs au fond de chaque tiroir, des parfums dans les placards. Les trains qui vont la nuit nous chantent des chansons. Maman ne vend pas la maison.
Moi, j'ai dit à Piaf, Piaf, donnez-moi Paris-Méditerranée, et moi, je vous donnerai Le ciel est bleu, la mer est verte. Elle m'a dit, d'accord, j'adore cette chanson, bon, on s'entend pour ça, et on se met à chanter nos chansons, et puis on se revoit 15 jours après, on se dit, ben, on se les redonne. Parce que moi, j'étais pas plus dans la peau d'une fille dans Paris-Méditerranée qui se avec un gars dans le couloir et qui fait l'amour avec le gars, ça ne collait pas avec mon personnage, ça n'allait pas avec mes idées. Et elle me dit, ben, la mer, je la connais pas, je peux pas en parler. Le flot qui roule à l'horizon, je ne sais pas le dire. Alors on s'est redonné ces deux chansons. C'était d'un drôle, on a pris un fou rire, on s'est dit, mais alors vraiment, au lieu de se les voler, on se les redonne. Et c'était très très gentil, il y avait quelque chose de charmant, ça. J'ai chanté Le petit parapluie que Brassens m'avait donné, et je l'ai chanté au Canada, où ça a admirablement collé, et ça plaisait beaucoup aux Canadiens. Et un jour, je dis à Brassens, nous étions dans le même programme après, quand je suis rentrée en France, dans le même programme, et je lui dis, Georges, venez déjeuner à la maison, ça me fera plaisir, j'ai une bonne cuisinière, on fera la bonne popote. Il me dit d'accord, il vient le lendemain avec des fleurs qu'il portait drôlement, comme ça. Et il les colle sur la table et il dit, je ne sais pas ce que c'est que c'est le nom de ces fleurs, et il pique à les colères. Mais je lui dis, mais Georges, les fleurs, c'est toujours joli, ça n'a pas besoin d'avoir de nom. Moi non plus, je ne sais pas les noms de ces fleurs. Oui, 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 je devrais savoir le nom, mais quand j'étais petit, je n'avais jamais de fleurs, je ne voyais pas les fleurs, alors je ne sais pas. Et ça m'a tellement attendri de voir ce grand gaillard, ce talent, ce poète, me dire que quand il était petit garçon, il ne connaissait pas les fleurs. Ça m'avait tourneboulé. Et c'est vrai. On ne peut pas faire des choses comme ça si ce n'est pas vrai.
Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un prêté sans doute le matin même par un ami courant alors. À sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre d'ouïr à deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le ciel fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, j'ai tout perdu au change,
pardi.
En tous les cas, personne n'a chanté la ballade irlandaise qui s'appelle Lily Marlène comme elle. C'est impossible, car c'est une ballade irlandaise, ça. Oui, oui. Il n'y a pas très longtemps, je le sais. Mais du reste, si vous voyez les paroles et l'air même, ce n'est pas guerrier du tout. Ce n'est pas la guerre du tout. Alors ça, personne ne peut chanter comme elle a chanté ça. Ben oui, parce que c'est une chanson d'homme. C'est le soldat qui rappelle sa fiancée et tout ça. Ça veut... Au fond, il y a qu'elle qui pouvait chanter ça. Parce que c'est pas du tout pour une bonne femme. Pour le type bonne femme.
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui, c'est dans ce coin la seule soir, on s'attendait rempli d'espoir, tous deux Lily Marlène, tous deux Lily Marlène. Dans la nuit sombre, nos corps enlacés ne faisaient qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Nous échangions ingénument, joue contre joue, bien des serments, tous deux Lily Marlène, tous deux Lily Marlène. Le temps passe vite lorsque l'on est deux, hélas on se quitte, voici le couvre-feu. Te souviens-tu de nos regrets lorsqu'il fallait nous séparer? Dis-moi, Lily Marlène, dis-moi, Lily Marlène,
dis-moi, Lily Marlène.
La vieille lanterne s'allume toujours devant la caserne lorsque finit le jour. Mais tout me paraît étranger, aurais-je donc beaucoup changé? Dis-moi, Lily Marlène, dis-moi, Lily Marlène,
dis-moi, Lily Marlène.
Cette tendre histoire de nos chers 20 ans chante en ma mémoire malgré les jours, les ans. Il me semble entendre ton pas et je te fais rendre mes bras. Lily, Lily Marlène, Lily, Lily Marlène.
Il me semble entendre ton pas et je te fais rendre mes bras.
Lily, Lily Marlène, Lily, Lily Marlène.
Micheline Lesser, son mari était aussi l'impresario d'Édith Piaf, de Charles Boyer, de Maurice Chevalier.
Mon mari lui a demandé si ça l'amuserait de venir chanter en Amérique. Alors c'est là où c'est assez drôle quand on la connaît, c'est qu'elle a commencé à pousser des cris en disant qu'elle ne parlait pas anglais, qu'elle ne pouvait pas traverser l'Atlantique, qu'elle ne mettrait jamais les pieds dans un avion. Et enfin on est arrivé à la séduire, et à lui proposer un contrat qui était très agréable et très bien, dans une boîte très élégante de New York, et elle a accepté. Mais pour elle c'était une aventure, d'ailleurs prendre l'avion ça a été vraiment une chose historique. Et elle est arrivée à New York, mais elle a eu une idée qui était géniale, c'est qu'elle a dit je veux bien venir à New York, mais je veux venir avec mes tableaux. Bon, on a fait une exposition, elle a été immédiatement, vis-à-vis des journalistes américains, une personnalité de tout premier plan. La question ne se posait pas. lavait le trac, elle était énervée et tout ça. Mais elle nous a quand même apporté une liste de ses relations new-yorkaises. Eh bien, il y avait tout le gratin de New York. Je pourrais dire les Vanderbilt, les Rockefeller, les Ford, les Astor, enfin des gens qui n'avaient jamais mis de leur vie les pieds dans une boîte de nuit, sont venus le soir de l'ouverture de Suzy Solidor. Ça a été un succès fabuleux. Elle a essayé de parler anglais, ça a été très amusant. Un fou rire poli, mais très amusant. Pourtant, elle a fait un effort pour chanter certaines chansons, moitié anglais, moitié français. Mais enfin, elle a fait un triomphe. Et alors, on n'avait jamais vu, elle est venue deux fois d'ailleurs, avec un contrat prolongé, on n'avait jamais vu une telle consommation de champagne à New York dans une boîte. C'était absolument inconnu. Ça, ça devait être en 49 et 50, je pense.
C'était Arthur Lesser qui s'occupait de moi, qui était mon impresario. Et je dois dire que les copains ont été très très gentils. Il y avait Jean Sablon là-bas qui m'a aidé, qui m'a dit « Fais pas ci, fais pas ça, fais attention. Tu crois que tu pourras chanter sans micro, tu vas voir. » Eh ben, j'ai dit « On verra bien. Je suis bretonne et je suis têtue. » Et ben, je l'ai fait et ça a collé. J'ai chanté sans micro, au Versailles. Alors ça les a un peu épatés. Et en arrivant en scène, je leur disais « Je ne suis pas toute jeune, je ne suis pas très jolie, mais je suis tellement charmante. » Alors ils disaient « Oh, nos filles ne nous ont jamais dit ça, c'est merveilleux. » Ils étaient tout attendris parce que je leur disais ça. Et j'avais dit « Je veux bien partir, mais avec mes portraits. » Les ennuis que j'ai pu avoir avec... Enfin, pas tous, heureusement. Je suis partie avec 15, je crois. Mais les ennuis que j'ai pu avoir... Les Américains croyaient que je partais pour les vendre. Je leur disais, mais non, c'est pour être autour de moi, c'est pour m'accompagner, c'est pour... Je me sens mieux quand je suis là. Ils se disaient, elle est folle. Bon, ils ont voulu me faire regarder la tête. J'ai dit, non, la tête va très bien. C'est les portraits qui vont pas, parce qu'on ne veut pas me les laisser entrer. Ça y est, j'ai fait une telle vie de bretonne, naturellement, qui me l'ont laissé entrer. Et après, mais pour les ressortir... Oh, c'était encore une histoire. Enfin, j'ai bien juré que jamais j'y reprendrais.
Il entra et dans ses yeux sombres, je vis la nuit. Et tout au fond de la pénombre, je vis le lit. Il m'appelait sa goélette blonde et dorée. Il caressait doucement ma tête, les yeux fermés. Car dans un port, on n'attend pas, lorsque l'amour vous tend les bras. Il me disait des mots très tendres que j'adorais. Il répétait, c'est ma grande brinque, je ferai ce qui te plaît. Puis il m'a montré cet tatouage et il m'a dit, je prends ton cœur à l'abordage. Je fus à lui, car dans un port on n'attend pas, lorsque l'amour vous tend les bras. Un bâton en partance le lendemain, je lui ai crié ma souffrance, ce fut en vain. Il est parti et mon cœur flanche devant l'amour. Pour moi, c'est fini les dimanches et les beaux jours. Amour déjà mort.
suis rentrée d'Amérique. Je n'ai pas voulu aller chez quelqu'un d'autre. Et j'ai ouvert l'ancien cabaret de Jean Rigaud, qui s'appelait La Boîte à Sardines. Et je l'ai appelé chez Solidor, naturellement, et je suis... On descendait quelques marches et j'ai mis mes portraits, mes éternels portraits autour de moi. Et je suis resté encore là 6-7 ans. C'était charmant. Il y avait, et mon camarade Henri Brie, qui était merveilleux, qui me torturait, mais enfin ça c'était... Il y a une dame qui a dit à son mari, « Oh, je suis allée chez Miss Solidor hier. Eh bien, c'était un garçon un peu grossier qui est monté sur le stage. » Et tout de suite, il lui a parlé de sa famille, de son père, de sa mère. Elle était furieuse. Elle a dit, taisez-vous, Brie. Et il a continué. Et vraiment, c'était très, très... Et mon mari a regardé. Il n'avait pas son passeport. Nous sommes partis avant l'arrivée des agents. J'ai dit à Brie, jamais tu n'auras un compte rendu comme ça. Jamais, jamais, jamais. C'est le plus beau de ta vie. Je l'adore. C'est comme mon frère. J'ai pris pour 8 jours et j'ai gardé 30 ans. Prévert, petite chose très courte, qui s'appelle Paris at Night. 3 allumettes, une à une, allumées dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier. La seconde pour voir tes yeux. La dernière pour voir ta bouche. Et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela. En te serrant dans mes bras.
Beauté sensationnelle. Assez grande. Oui, assez grande, elle est. Ah oui, sensationnelle. Puis ses cheveux, tout ça, ses cheveux de lin. Très intéressant. Et elle a été distinguée par tous les peintres. Tous les peintres. C'est merveilleux. Donc je vous dis, avec un corps comme ça, c'était intéressant. Elle était beaucoup à Deauville tout le temps. Oui, c'est là qu'elle devait avoir vu beaucoup de peintres. Je pense que c'est là que Vandongen a dû la peindre.
Un jour, j'étais avec Vandongen sur la plage à Deauville, avec mon petit costume marin, et il m'a dit « Oh, ne bouge pas, assise comme tu es sur le sable, avec la mer derrière, ce bleu de la mer de c'est tellement extraordinaire, cette mer à Deauville, quand il fait un petit peu de vent. Eh bien, ne bouge pas, je vais te faire comme ça. » Et c'est là où il a fait le portrait, qui est un des premiers, le premier, je crois. Puis ça a commencé comme ça. Tous les copains sont venus, enfin moi, donne-moi un dos, donne-moi un bras, donne-moi quelque chose. Avec ma femme, on va te faire un bon petit déjeuner. Tu vas poser. Et comme je n'étais pas modèle et qu'il ne pouvait pas me remercier, il me donnait une tête. J'ai eu 10 têtes, j'ai eu 20 têtes, j'ai eu 30 têtes. C'est comme ça que ça a commencé, au fond. Ça m'amusait. Et pour commencer, c'était très drôle de voir tous ces Solidors qui me suivaient partout.
Et puis Solidor, mon Dieu, ça a été pour nous la chance de notre vie et la chance de Cagnes.
Jean Clergue, conservateur honoraire du château-musée de Cagnes-sur-Mer.
Elle a donné d'elle beaucoup de choses, beaucoup de pensées, beaucoup de cœur, beaucoup d'amitié. Eh bien, elle est venue pour donner. Alors, nous l'avons reçue devinant ses sentiments, nous l'avons reçue aimablement, et un peu avec de l'émotion, parce que la personnalité de Suzy, vous savez, elle est éclatante, à tous les points de vue. Elle est venue un jour au château, elle a dit, vous n'avez pas une salle ? Dans ce château, il y en avait des salles, vous savez. Il y avait beaucoup de salles, parce que nous étions un château encore en transformation, en aménagement. Je lui dis, voilà. Cette salle n'est pas encore prête, mais elle sera prête. Et c'était le boudoir de la marquise. Le boudoir de la marquise, pour des tableaux, parce que tout de suite, nous avions deviné que Suzy voulait nous donner quelques toiles, des portraits. Alors dans ce boudoir, voici le portrait, les portraits, 40 portraits de Suzy qui occupent cet emplacement. C'est très important le portrait, vous savez. La figure d'une personne, c'est une présence permanente, précise, véritable. Et la réhabilitation du portrait pour un conservateur de musée, c'est quelque chose de supérieur. Je rends grâce à ce geste de Suzy, qui tout d'un coup, en donnant au château de Cagnes, a donné à tous les musées de France. C'est un geste sur un plan national. Mais ça nous dépasse. Nous avons accepté, nous avons accroché, mais aussi bien, cela veut dire que nous avons enrichi notre pays.
213 peintres ont peint Suzy, ont peint Solidor, ont peint Suzy Solidor. Et leur liste n'est pas close. Picabia, Dunant, Paul Collin, Dufy, Mariette Lydis, Vertès, Lempicka, Francis Bacon, Breyer, Touchag, Yakov
Adouville,
oui. L'Abyss.
Avec la veste rouge. Oui. It's a long time. On se connaissait déjà, il m'a dit, ce que je voudrais, c'est de faire une chose de toi avec cette veste rouge qui est jolie sur la mer. En Fujita, baignait très doucement, très lentement, et avec des poils des yeux, des cils. Et il avait les derniers temps, quand il a fait mon... Voilà, il est là. Et il a fait mon portrait avec des feuilles d'or et ça lui faisait mal. Il ne pouvait plus regarder. Alors il a arrêté de faire... Il a arrêté avec le faire avec les feuilles d'or parce que ça le fatiguait. Je me dis, bon, ben, ils m'ont vu comme ça, eux. Mais soit on ne se voit jamais.
Bérard, et qu'est-ce qui s'est passé avec ce tableau?
Eh bien, il est noir sur fond noir avec une robe noire. Il était devenu fou de son tableau et il ne voulait plus le donner. Ah, je lui ai dit, tu m'as fait poser. Tu m'as fait monter 3 étages à chaque fois pour poser, c'est pour toi. Au quartier latin, tu vas me le donner. J'étais obligée de partir avec en vélo, avec la toile sous le bras. Il ne voulait plus le donner. Il dit, non, je l'aime. Il y avait Kisling qui jurait comme un damné quand il peignait, et puis d'autres qui chantaient, et puis... Ça dépend absolument de l'ambiance qu'il y avait. J'adorais poser et ça m'amusait parce que je répétais mes chansons en même temps et mes poèmes. Alors j'étais pas embêtée du tout de faire ça. Ça m'embêtait pas. Quand je ne parlais pas avec le peintre, je répétais. Et c'était pas désagréable du tout. Ils voyaient. Il m'a dit, j'aime beaucoup la façon dont tu te tiens comme ça et quand tu chantes, attends, je vais faire un... Dis encore un poème de plus. Et il a continué à dessiner. Et puis 8 jours après, il m'a dit, viens voir, il faut que tu rectifies avec moi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies. Mais c'était déjà, tout le fond était fait, tout était... C'est extraordinaire. Marie Laurencin m'a dit, je veux vous voir appuyer sur un petit balcon, ce qu'elle faisait rarement. Et ça a commencé comme ça. Et nous bavardions et le portrait s'est fait insensiblement. J'ai même pas vu comment ça s'est terminé. Enfin, j'ai le portrait, heureusement. Mais elle était tellement simple et gentille et directe que c'était pas embêtant de poser, pas du tout. C'est un très beau Laurencin, c'est peut-être pas très Solidor. Moi, j'ai le côté plus rude, plus breton. Mais elle, c'est son côté évanescent, merveilleux. Or, Cocteau m'en a fait plusieurs. Et celui-là, qui est devant vous, et qui s'appelle Solidor Solitude. Parce qu'il m'avait vu un jour toute seule et il m'a dit, tu t'embêtes? J'ai dit, non, je m'embête jamais, je sais pas ce que c'est. Le mot ennui, j'ai jamais su ce que c'était. Mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, ça m'ennuie de te voir comme ça, solide. Je vais te faire une petite tête avec Solidor, Solitude. Et c'est comme ça qu'est venu ce petit portrait que j'adore, qui est là à côté de moi. Quand je les revois comme ça, c'est pas moi que je vois, c'est tous les artistes. Je revois Kissing, je revois Fujita, je revois tous les copains. C'est ça qui m'apporte beaucoup. Non, moi, ça ne m'intéresse pas, moi. Je me connais par cœur, hélas. Dans ce merveilleux château, je viens tous les 6 mois, je les regarde, je fais mon plein. Et je redescends. Ça y est, c'est fini. J'y pense plus. Mais quand je passe en dessous et que je vois mes 2 fenêtres, enfin les 2 fenêtres de ma salle, eh bien, ça me fait un petit truc. Je me dis, ça y est. Tout ça est là-haut. Toute la bande. Federico Garcia Lorca. Ça s'appelle Baiser. Il est très peu connu. Baiser sur tes yeux de sirène, et sur tes cheveux de reine. Baiser sur tes dents de féline, et sur ta poitrine. Baiser affolant. Baiser au poignet qui ploie, et sur tes jarrets, sur tes bas de soie. baiser dans le creux de l'épaule, baiser qui te frôle, baiser capiteux. Baiser sur tes doigts diaphanes, sur tes pieds étroits, sur tes pieds de diane. Baiser sur tes flancs de gazelle, et sous tes aisselles, baisers affolants. Baiser sur tes seins de sultane, sur tes souples reins, tes reins de gitane. Baiser lent, glissé, sur ton ventre lisse, et sur ton calice, suprême baiser.
Ça vous arrive de remettre un disque, de vous entendre ?
Non, jamais. Alors ça, jamais. C'est pour ça que j'ai très peu de disques. D'abord, ça ne se faisait pas comme maintenant. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Je pique des colères. L'autre jour, j'entends quelqu'un qui chante et je me dis, copie à ce point-là, c'est dégoûtant. Eh bien, c'était moi. Alors, vous voyez... Non, je ne m'écoute jamais. Ça ne m'intéresse pas. Il faut savoir éloigner tout ça, parce que sans ça, la vie n'est plus possible. Que sont mes amis devenus ? Il faut rester dans son époque et ne pas trop gamberger, comme on dit. Vivre au présent, d'accord, mais tout de même garder un peu cette espèce de nostalgie charmante de ce poème, justement.
Vous êtes une Suzy fidèle.
Oui.
Vous êtes très fidèle.
J'essaie d'être fidèle en amitié, surtout.
C'est à Hambourg, un soir de pluie, quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands, le long des quais crevant d'ennui.
C'est à La mémoire de Suzy. Portrait de Suzy Solidor par Nadine Nimier et Marie-France Nussbaum.
Comme l'écume et parlait d'horizons perdus. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel.
Avec les témoignages d'Arletty, de Jean Clergue, conservateur honoraire du château-musée de Cagnes-sur-Mer, d'André Frégnaud, écrivain, de Micheline Lesser et d'Alfred Mam, éditeur.
À l'heure où la mer vient s'offrir au vent fort qui la fait gémir sous sa caresse chaque nuit.
Mixage Raymond Butin.
Sur mon corps, ses longues mains se sont posées près des lourds cargos enchaînés qui sommeillaient au creux du port. C'est à Hambourg qu'il est parti dans le cri violent des sirènes. Parmi les ombres incertaines, le long des quais noyés de pluie, c'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo, c'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco, c'est à Hambourg, un soir de pluie, quand les navires quittent leur fer pour s'en retourner à la mer, que sur le port. Il s'est enfui.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 août 1978. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.